Chapitre 21. Où D'Artagnan se prépare à voyager pour la maison Planchet et compagnie. D'Artagnan rêva si bien toute la nuit que son plan fut arrêté dès le lendemain matin. « Voilà, » dit-il en se mettant sur son séant dans son lit et en appuyant son coude sur son genou et son menton dans sa main. « Voilà, je chercherai 40 hommes bien sûrs et bien solides, recrutés parmi des gens un peu compromis, mais ayant des habitudes de discipline. Je leur promettrai 500 livres pour un mois s'ils reviennent. Rien s'ils ne reviennent pas, ou moitié pour leurs collatéraux. Quant à la nourriture et au logement, cela regarde les Anglais, qui ont des bœufs au pâturage, du lard au saloir, des poules au poulailler et du grain en grange. Je me présenterai au général Monk avec ce corps de troupe. Il m'agréera. J'aurai sa confiance et j'en abuserai le plus vite possible. » Mais sans aller plus loin, D'Artagnan secoua la tête et s'interrompit. « Non, dit-il, je n'oserai raconter cela à Athos. Le moyen est donc peu honorable. Il faut user de violence, continua-t-il. Il le faut bien certainement, sans avoir en rien engagé ma loyauté. Avec 40 hommes, je courrai la campagne comme partisan. Oui, mais si je rencontre non pas 40 000 Anglais, comme disait Planchet, mais purement et simplement 400. Je serai battu, attendu que sur mes 40 guerriers, il s'en trouvera 10 au moins de véreux, 10 qui se feront tuer tout de suite par bêtise. Non, en effet, impossible d'avoir 40 hommes sûrs. Cela n'existe pas. Il faut savoir se contenter de 30. Avec 10 hommes de moins, j'aurai le droit d'éviter la rencontre à main armée, à cause du petit nombre de mes gens, et si la rencontre a lieu, mon choix est bien plus certain sur 30 hommes que sur 40. En outre, j'économise 5 000 francs, c'est-à-dire le 1/8 de mon capital, cela en vaut la peine. C'est dit, j'aurai donc 30 hommes. Je les diviserai en 3 bandes, nous nous éparpillerons dans le pays avec injonction de nous réunir à un moment donné. De cette façon, 10 par 10, nous ne donnons pas le moindre soupçon, nous passons inaperçus. Oui, oui, 30, c'est un merveilleux nombre. Il y a 3 dizaines. 3, ce nombre divin. Et puis vraiment, une compagnie de 30 hommes, lorsqu'elle sera réunie, cela aura encore quelque chose d'imposant. Ah, malheureux que je suis, continua D'Artagnan, il faut 30 chevaux. C'est ruineux. Où diable avais-je la tête en oubliant les chevaux? On ne peut songer cependant à faire un coup pareil sans chevaux. Eh bien, soit, ce sacrifice, nous le ferons. Quitte à prendre les chevaux dans le pays. Ils n'y sont pas mauvais, d'ailleurs. Mais j'oubliais, peste! 3 bandes, cela nécessite 3 commandants. Voilà la difficulté. Sur les 3 commandants, j'en ai déjà un, c'est moi. Oui, mais les 2 autres coûteront à eux seuls presque autant d'argent que tout le reste de la troupe. Non, décidément, il ne faudrait qu'un seul lieutenant. En ce cas, alors, je réduirai ma troupe à 20 hommes. Je sais bien que c'est peu, 20 hommes. Mais puisqu'avec 30, j'étais décidé à ne pas chercher les coups, je le serai bien plus encore avec 20. 20, c'est un compte rond. D'ailleurs, cela réduit de 10 le nombre des chevaux, ce qui est une considération. Et alors, avec un bon lieutenant... Mordieu ! Ce que c'est pourtant que patience et calcul ! N'allais-je pas m'embarquer avec 40 hommes, et voilà maintenant que je me réduis à 20 pour un égal succès. 10 000 livres d'épargnés d'un seul coup, et plus de sûreté, c'est bien cela. Voyons, à 7 heures, il ne s'agit plus que de trouver ce lieutenant. Trouvons-le donc, et après... Ce n'est pas facile, il me le faut brave et bon, un second moi-même. Oui, mais un lieutenant aura mon secret, et comme ce secret vaut 1 000 000 et que je ne paierai à mon homme que 1 000 livres, 1 500 livres au plus, mon homme vendra le secret à Monk. Pas de lieutenant, mordieu. D'ailleurs, cet homme fut-il muet comme un disciple de Pythagore, cet homme aura bien dans la troupe un soldat favori dont il fera son sergent. le sergent pénétrera le secret du lieutenant au cas où celui-ci sera honnête et ne voudra pas le vendre. » Alors le sergent, moins probe et moins ambitieux, donnera le tout pour 50 000 livres. « Allons, allons, c'est impossible. Décidément, le lieutenant est impossible. » Mais alors, plus de fractions. Je ne puis diviser ma troupe en deux et agir sur deux points à la fois sans un autre moi-même qui... Mais à quoi bon agir sur deux points puisque nous n'avons qu'un homme à prendre? À quoi bon affaiblir un corps en mettant la droite ici, la gauche là? Un seul corps, mordiou! Un seul est commandé par D'Artagnan. Très bien. Mais 20 hommes marchant d'une bande sont suspects à tout le monde. Il ne faut pas qu'on voie 20 cavaliers marcher ensemble, autrement on leur détache une compagnie qui demande le mot d'ordre et qui, sur l'embarras qu'on éprouve à le donner, fusille M. D'Artagnan et ses hommes comme des lapins. Je me réduis donc à 10 hommes. De cette façon, j'agis simplement et avec unité. Je serai forcé à la prudence, ce qui est la moitié de la réussite dans une affaire du genre de celle que j'entreprends. Le grand nombre m'eût entraîné à quelque folie peut-être. 10 chevaux ne sont plus rien à acheter ou à prendre. Oh, excellente idée! Et quelle tranquillité parfaite elle fait passer dans mes veines! Plus de soupçons, plus de mots d'ordre, plus de danger. 10 hommes, ce sont des valets ou des commis. 10 hommes conduisant 10 chevaux chargés de marchandises quelconques sont tolérés, bien reçus partout. 10 hommes voyageant pour le compte de la maison Planchet et Compagnie de France, il n'y a rien à dire. Ces 10 hommes, vêtus comme des manœuvriers, ont un bon couteau de chasse, un bon mousqueton à la croupe du cheval, un bon pistolet dans la fonte. Ils ne se laissent jamais inquiéter parce qu'ils n'ont pas de mauvais dessein. Ils sont peut-être au fond un peu contrebandiers, mais qu'est-ce que cela fait? La contrebande n'est pas comme la polygamie un cas pendable. Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on confisque nos marchandises. Les marchandises confisquées, la belle affaire. Allons, allons, c'est un plan superbe. 10 hommes seulement, 10 hommes que j'engagerai pour mon service, 10 hommes qui seront résolus comme 40, qui me coûteront comme 4, et à qui, pour plus grande sûreté, je n'ouvrirai pas la bouche de mon dessein, et à qui je dirai seulement « Mes amis, il y a un coup à faire ». De cette façon, Satan sera bien malin s'il me joue un de ses tours. 15 000 livres d'économiser, c'est superbe, sur 20. Ainsi réconforté par son industrieux calcul, D'Artagnan s'arrêta à ce plan et résolut de n'y plus rien changer. Il avait déjà, sur une liste fournie par son intarissable mémoire, 10 hommes illustres parmi les chercheurs d'aventure, maltraités par la fortune ou inquiétés par la justice. Sur ce, D'Artagnan se leva et se mit en quête à l'instant même en invitant Planchet à ne pas l'attendre à déjeuner et même peut-être à dîner. 1 jour et demi passé à courir certains bouges de Paris lui suffit pour sa récolte, et sans faire communiquer les uns avec les autres ses aventuriers, il avait colligé, collectionné, réuni en moins de 30 heures une charmante collection de mauvais visages parlant un français moins pur que l'anglais dont ils allaient se servir. C'était pour la plupart des gardes dont D'Artagnan avait pu apprécier le mérite en différentes rencontres et que l'ivrognerie, des coups d'épée malheureux, des gains inespérés au jeu ou les réformes économiques de M. de Mazarin avaient forcé de chercher l'ombre et la solitude, ces deux grands consolateurs des âmes incomprises et froissées. Ils portaient sur leur physionomie et dans leurs vêtements les traces des peines de cœur qu'ils avaient éprouvées. Quelques-uns avaient le visage déchiré. Tous avaient des habits en lambeaux. D'Artagnan soulagea le plus pressé de ces misères fraternelles avec une sage distribution des écus de la société. Puis, ayant veillé à ce que ces écus fussent employés à l'embellissement physique de la troupe, il assigna rendez-vous à ses recrues dans le nord de la France, entre Bergues et Saint-Omer. 6 jours avait été donné pour tout terme, et D'Artagnan connaissait assez la bonne volonté, la belle humeur et la probité relative de ses illustres engagés pour être certain que pas un d'eux ne manquerait à l'appel. Ses ordres donnés, ce rendez-vous pris, il alla faire ses adieux à Planchet, qui lui demanda des nouvelles de son armée. D'Artagnan ne jugea point à propos de lui faire part de la réduction qu'il avait faite dans son personnel. Il craignait d'entamer par cet aveu la confiance de son associé. Planchet se réjouit fort d'apprendre que l'armée était toute levée et que lui, Planchet, se trouvait une espèce de roi, de comte à demi, qui, de son trône comtois, soudoyait un corps de troupes destiné à guerroyer contre la perfide Albion, cet ennemi de tous les cœurs vraiment français. Planchet compta donc en beau louis double 20 000 livres à D'Artagnan, pour sa part à lui, Planchet, et 20 000 autres livres, toujours en beau louis double, pour la part de D'Artagnan. D'Artagnan mit chacun des 20 000 francs dans un sac, et pesant chaque sac de chaque main, « C'est bien embarrassant cet argent, mon cher Planchet, » dit-il. « Sais-tu que cela pèse plus de 30 livres ?»« Bah, votre cheval portera cela comme une plume. » D'Artagnan secoua la tête. « Ne me dis pas de ces choses-là, Planchet. Un cheval surchargé de 30 livres, après le porte-manteau et le cavalier, ne passe plus si facilement une rivière, ne franchit plus si légèrement un mur ou un fossé. Et plus de cheval, plus de cavalier. Il est vrai que tu ne sais pas cela, toi, Planchet, qui as servi toute ta vie dans l'infanterie. » « Alors, monsieur, comment faire ? » dit Planchet, vraiment embarrassé. « Écoute, dit D'Artagnan, je paierai mon armée à son retour dans ses foyers. Garde-moi ma moitié de 20 000 livres que tu feras valoir pendant ce temps-là. » « Et ma moitié à moi, dit Planchet. Je l'emporte. « Votre confiance m'honore, dit Planchet, mais si vous ne revenez pas ? » « C'est possible, quoique la chose soit peu vraisemblable. Alors, Planchet, pour le cas où je ne reviendrai pas, donne-moi une plume pour que je fasse mon testament. » D'Artagnan prit une plume, du papier et écrivit sur une simple feuille. « Moi, D'Artagnan, je possède 20 000 livres économisées sou à sou depuis 33 ans que je suis au service de Sa Majesté le Roi de France. J'en donne 5 000 à Athos, 5 000 à Porthos, 5 000 à Aramis pour qu'ils les donnent en mon nom et aux deux leurs à mon petit ami Raoul, vicomte de Bragelonne. Je donne les 5 000 dernières à Planchet pour qu'il distribue avec moins de regret les 15 000 autres à mes amis. En fin de quoi, j'ai signé les présentes, D'Artagnan. » Planchet paraissait fort curieux de savoir ce qu'avait écrit D'Artagnan. « Tiens, dit le mousquetaire à Planchet, lis. » Aux dernières lignes, les larmes vinrent aux yeux de Planchet. « Vous croyez que je n'eusse pas donné l'argent sans cela ? Alors je ne veux pas de vos 5 000 livres. » D'Artagnan sourit. « Accepte, Planchet, accepte. Et de cette façon, tu ne perdras que 15 000 francs au lieu de 20, et tu ne seras pas tenté de faire affront à la signature de ton maître et ami en cherchant à ne rien perdre du tout. » Comme il connaissait le cœur des hommes et des épiciers, ce cher monsieur D'Artagnan. Ceux qui ont appelé fou Don Quichotte parce qu'il marchait à la conquête d'un empire avec le seul Sancho, son écuyer, et ceux qui ont appelé fou Sancho parce qu'il marchait avec son maître à la conquête du sudit empire, cela certainement n'eussent point porté un autre jugement sur D'Artagnan et sur Planchet. Cependant, le premier passait pour un esprit subtil parmi les plus fins esprits de la cour de France. Quant au second, il s'était acquis à bon droit la réputation d'une des plus fortes cervelles parmi les marchands épiciers de la rue des Lombards, par conséquent de Paris, par conséquent de France. Or, à n'envisager ces deux hommes qu'au point de vue de tous les hommes et les moyens à l'aide desquels ils comptaient remettre un roi sur son trône que comparativement aux autres moyens, le plus mince cerveau du pays où les cerveaux sont les plus minces, se fût révolté contre l'outrecuidance du lieutenant et la stupidité de son associé. Heureusement, D'Artagnan n'était pas homme à écouter les sornettes qui se débitaient autour de lui, ni les commentaires que l'on faisait sur lui. Il avait adopté la devise « Faisons bien et laissons dire ». Planchet, de son côté, avait adopté celle-ci « Laissons faire et ne disons rien ». Il en résultait que, selon l'habitude de tous les génies supérieurs, ces deux hommes se flattaient, intra pectus, d'avoir raison contre tous ceux qui leur donnaient tort. Pour commencer, D'Artagnan se mit en route par le plus beau temps du monde, sans nuages au ciel, sans nuages à l'esprit, joyeux et fort, calme et décidé, gros de sa résolution et par conséquent portant avec lui une dose décuplée de ce fluide puissant que les secousses de l'âme font jaillir des nerfs et qui procurent à la machine humaine une force et une influence dont les siècles futurs se rendront, selon toute probabilité, plus arithmétiquement compte que nous ne pouvons le faire aujourd'hui. Il remonta, comme au temps passé, cette route féconde en aventures qu'il avait conduite à Boulogne et qu'il faisait pour la quatrième fois. Il put presque, chemin faisant, reconnaître la trace de son pas sur le pavé et celle de son poing sur les portes des hôtelleries. Sa mémoire, toujours active et présente, ressuscitait alors cette jeunesse connue 30 ans après, démentie ni son grand cœur ni son poignet d'acier. Quelle riche nature que celle de cet homme! Il avait toutes les passions, tous les défauts, toutes les faiblesses, et l'esprit de contrariété familier à son intelligence changeait toutes ses imperfections en des qualités correspondantes. D'Artagnan, grâce à son imagination sans cesse errante, avait peur du nombre, et honteux d'avoir eu peur, il marchait à cette ombre et devenait alors extravagant de bravoure si le danger était réel. Aussi, tout en lui était émotion et partant jouissance. Il aimait fort la société d'autrui, mais jamais ne s'ennuyait dans la sienne, et plus d'une fois, si on eût pu l'étudier quand il était seul, on l'eût vu rire des quolibets qu'il se racontait à lui-même ou des bouffonnes imaginations qu'il se créait justement 5 minutes avant le moment où devait venir l'ennui. D'Artagnan ne fut pas peut-être aussi gai cette fois qu'il l'eût été avec la perspective de trouver quelques bons amis à Calais au lieu de celle qu'il avait d'y rencontrer les 10 sacripants. Mais cependant, la mélancolie ne le visita point plus d'une fois par jour, et ce fut 5 visites à peu près qu'il reçut de cette sombre déité, avant d'apercevoir la mer à Boulogne. Encore ces visites furent-elles courtes. Mais, une fois là, D'Artagnan se sentit près de l'action, et tout autre sentiment que celui de la confiance disparut pour ne plus jamais revenir. De Boulogne, il suivit la côte jusqu'à Calais. Calais était le rendez-vous général, et dans Calais, il avait désigné à chacun de ses enrôlés l'hôtellerie du grand monarque, où la vie n'était point chère, où les matelots faisaient la chaudière, où les hommes d'épée, à fourreau de cuir bien entendu, trouvaient gîte, table, nourriture, et toutes les douceurs de la vie enfin, à 30 sous par jour. D'Artagnan se proposait de les surprendre en flagrant délit de vie errante, et de juger par la première apparence s'il fallait compter sur eux comme sur de bons compagnons. Il arriva le soir, à 4h30, à Calais.